Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. No.
La première fois que ça t'arrive, ça sera pas la dernière. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, bah tu sais, parce que on est noir. Tu vois, il pense que parce que t'es noir, t'es pas intelligente. Parce que t'es noir, malgré tes résultats, même malgré ça, ils te diront toujours que c'est pas assez performant, pas assez blanche.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime. Afin de mieux se l'approprier.
Belle douce. J'ai 25 ans en juillet, donc tout récemment. J'habite en région parisienne, mais je préfère Nantes comme ville, vous m'en voulez pas. Je suis née au Congo-Brazzaville, j'ai vécu pendant 12 ans, et à l'âge de 12 ans, je suis venue en France avec ma sœur. Et donc ça fait 12-13 ans maintenant que je suis en France. J'ai fait une licence de sociologie, un master d'information communication, et donc depuis, j'ai fini mes études et voilà, je bourlingue un peu en tant que journaliste, par-ci par-là. Ma mère, elle a préféré qu'on vienne, ma sœur et moi, déjà pour des histoires politiques. Ce qui se passait au Congo, c'est que c'est un peu compliqué comme histoire, mais je vais essayer de synthétiser. Quand je suis partie du Congo, donc en 2005, la dernière fois que j'avais vu mon père, c'était en prison, parce qu'il y était depuis 2 ans. Et nous, on a dû partir, parce qu'on portait le nom de notre père, et que c'était assez compliqué, puisque le Congo, c'est 4 millions d'habitants, et Brazza, c'est 1 million d'habitants, mais voilà, les choses se savent très vite. Mon père est militaire. Son chef de caserne avait prévu d'instituer un putsch contre Denis Sassou Nguesso, qui est président depuis peut-être bientôt 30 ans au pouvoir. Bon, moi, de ce qu'on m'avait raconté du haut de mes 10 ans, c'est que donc mon père n'était pas au courant et que ça s'est su, parce qu'il y avait un stock d'armes en fait dans leur caserne, d'armes lourdes, et le chef de caserne a pu s'échapper. Et mon père et ses compagnons en fait de caserne ont été arrêtés. Ils ont été questionnés, c'est-à-dire torturés. Et en fait, pour sa sécurité, il a fallu qu'il aille en prison, quoi, limite. Donc, moi, quand je suis allée le voir, bah, c'était vraiment un peu une sorte d'internat pour adultes, tu vois. C'était pas du tout la prison dont on a idée, etc. Mais c'était quand même assez impressionnant et je comprenais pas tout à l'époque, quoi. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui nous a décidé. Ma mère a décidé, voilà, de le ramener en France. Ma sœur, elle a 4 ans de plus que moi, donc elle a 29 ans. Et pour le coup, ma sœur et moi, on est vraiment différentes, quoi. C'est le jour et la nuit. Après, je pense que c'est au niveau de la socialisation aussi, hein. Moi, je suis arrivée à 12 ans, elle arrive à 16. Ma sœur est très croyante, s'est mariée, elle a attendu le mariage, voilà, pour vivre avec son mec. Et nos choix de vie, en fait, en découlent maintenant, je le vois, tu vois, pour tout ce qui est rapport aux autres, au monde, entre guillemets, la pop culture, mais bon, même s'il n'y a pas que ça, rapport aux livres, elle est vraiment très sectaire. Tant que ça touche pas à la religion, bah c'est quelque chose qui ne vaut pas le coup. Alors que moi, je suis une assoiffée de... Enfin, j'adore découvrir, je suis curieuse de tous les sujets, et encore plus dans une conviction politique désormais. Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, par exemple, moi, j'ai jamais pu être vraiment moi face à mes parents, parce qu'ils connaissent une partie de moi, mais je suis pas entière avec eux, quoi, du tout. Et ça, c'est quelque chose qui, ouais, au fur et à mesure, j'arrive à m'imposer un peu, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi, de trouver sa place, tout simplement, dans ce genre de famille congolaise, croyante, traditionnelle, avec des rôles super normés, le papa, la maman, la grande sœur, voilà, toutes les responsabilités qui en découlent. Et enfin, j'étais très calme, ça ne se voit plus aujourd'hui. Je pense que mon prénom, déjà, je pense que le prénom, ça te façonne.
Ça conditionne.
Voilà, ça conditionne. Et déjà, qu'en tant que petite fille, on te dit d'être douce, calme, de ne pas hausser la voix, d'être sage. Alors moi, douce, c'était une injonction à la sagesse permanente, quoi. Limite, j'étais un peu autiste, ou du moins, j'avais des comportements autistiques. J'étais une enfant très douce, très calme. Assidue aussi à l'école, parce que voilà, au Congo, du moins, je sais qu'en Afrique c'est un peu pareil, mais je parlais du Congo, il y a cette injonction aux études, des parents qui sont vraiment derrière les enfants, pas forcément de manière malsaine, hein, c'est vraiment un truc, on nous inculque ça depuis toujours, quoi. Jusqu'en 6e, 5e, j'ai eu de très bonnes notes, plutôt en français, en anglais, en maths, c'était pas trop ça, plafond vert, directement. Et par contre, quand je suis arrivée en 4e en France, donc j'étais au collège à Paris pendant un an, là ça a été, je pense que ça a été une rupture totale entre le système éducatif congolais et français. Je trouve que le système français est vachement laxiste, que les enfants, enfin les élèves sont un peu laissés comme ça dans leurs études. Cocon, c'était très strict, très sévère, mais il y avait un accompagnement et entre nous, on se tirait vers le haut. Alors qu'ici, je me suis rendu compte que on me traitait entre guillemets d'intello, quoi. D'intello, tu lèves la main tout le temps, regardez celle-là. Mais ça a été plus en troisième. En quatrième, j'étais un peu dans ma petite bulle, puisque j'arrivais du Congo, je connaissais pas tout à fait les codes. Je me souviendrai toujours que j'avais une doudoune rouge, mais immonde. Ma sœur en avait une verte. Et du coup, c'était. J'étais reconnaissable, quoi. J'avais les cheveux naturels, mais avec les grosses tresses, les nattes collées, là, comme ça. Enfin, en gros. Je respirais la blédardise, comme on disait. J'étais une blédarde. Mais à côté de ça, les profs, ils m'aimaient bien, parce que avec mes profs de français, j'avais des discussions et tout. Pour une élève, j'avais 12 ans, du coup. Enfin, ils voyaient pas ça, c'était très rare. J'étais un peu ambivalente, j'avais pas trop d'amis, mais vers la fin, ça a commencé à se délier un peu. Par contre, troisième, à Orléans. Là, c'est la cassure. C'est la cassure, je pense que je me rebelle par rapport à ma sœur qui est toujours dans ce côté très intello, très droite, qui sort pas des sentiers battus. Moi, je veux plus être cataloguée d'intello. Mes moyennes baissent, je bascule du côté des racailles, j'ai un parler, je façonne mon parler, les expressions, je veux tout lisser de ce côté intello, même si chez moi, je continue à lire, je m'intéresse à plein de choses, mais au collège, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'entourent et qui savent bien que pendant les examens, les contrôles, douce va aider, va donner des réponses, etc. Mais dans la cour, je vais être comme tout le monde.
Une volonté de t'intégrer ?
Oui. Oui.
Consciente ?
Consciente. Consciente, mais je... Une là,
posture
je...
que t'as prise.
Exactement. Déjà rien que c'est pas anodin d'avoir je portais des jogging, col roulé, veste en cuir et caporal ou je sais plus les chaussures à l'époque là. Et en fait c'était vraiment je voulais être identifiée dans un certain groupe et ne plus en sortir. Parce que c'est vrai qu'à Paris quand je suis arrivée c'était quand même difficile quoi. J'ai pris pas mal de remarques déplaisante, on va dire.
Qu'est-ce qu'on disait ?
Déjà, des questions à l'époque. « Ah, mais c'est bizarre que tu parles français et tout. Tu parles super bien français. Oui, en fait, parce que le Congo-Brazza, c'est une ex-colonie française. Enfin, c'est quoi l'histoire ici ? » Je comprenais pas, en fait, ces questions. Pourquoi on pose ce genre de questions ? Est-ce que t'habitais dans des cases, dans un arbre ? T'as vu quoi comme animaux là-bas ? Alors qu'il a fallu que j'aille en Tanzanie, donc cet été, pour voir des animaux de la savane, quoi, en vrai. Donc, assez caustique. Il y avait d'autres questions, mais de toute façon, toi, t'es une blédarde et tout. En plus, j'avais un accent, même si je pense qu'il n'était pas très prononcé, parce que j'ai toujours parlé français, en fait. Même si ma mère, elle nous parlait en langue et que nous, on répondait souvent en français. D'ailleurs, je m'en veux pour ça, mais ça, c'est une autre histoire. Donc des remarques désagréables qui, au final, je me rends compte qui m'ont vachement plus introvertie. Et c'est pour ça qu'en troisième, j'ai voulu un peu briser ça, quoi. Ce rôle d'intello. Première et terminale, j'intègre la seule classe de L. Et ce sera les meilleures années de ma vie à Orléans, avec une amie qui, elle, était donc d'origine marocaine, avec qui on va faire les 400 coups, mais toujours d'en sauter, les élèves teignent, mais qu'on aime bien. Tout le monde change de trottoir, on n'a pas l'air viril, mais on fait pas avoir. Quelqu'un qui se maquille, ça fait rire les passants. Dans le brouillard, quand on arrive un jour, on est tranquille, on passe incognito. Le soir, on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre quand on arrive un. J'étais plus de tout dans ce rôle de racaille, puisqu'au final, je me rendais compte que c'était pas moi. Je me surjouais, c'était fatigant à la longue, quoi. Et à partir de là, les premières sorties, quoique je n'étais pas une grosse fêtarde. Et là, je rencontre aussi le premier amour de ma vie. Et après, la fac. Première année, je reprends mon... Enfin, je suis moi-même, en fait. Assidu, je ne sors pas du tout, alors que les années de fac, normalement, tu vis le maximum de ta vie, tu vois. Et moi, non, pas du tout. Première année très sérieuse, la pression de ma mère, j'ai eu le bac enfin, mais il faut passer au-dessus maintenant, il y a d'autres choses à conquérir. Et au final, je me rends compte que j'ai des facilités, et que j'adore la sociologie, et que, en fait, j'ai pas besoin de plus, parce que j'avais même pas 20h, 25h d'heures par semaine. Donc je continue. Deuxième année, là je rencontre un groupe, on va dire un groupe fondateur de mon existence, quoi. Parce que c'est avec ces personnes que je vais à Berlin pendant une semaine. C'est avec ces personnes que je découvre la musique techno house, que je sors dans les clubs, que je mets mes premières cuites finalement, enfin voilà. Je rattrape en fait mon adolescence en quelque sorte, et là j'ai 18 ans.
D'ailleurs, est-ce que tu as subi une forme de discrimination de la part de personnes noires justement? Est-ce que tu es trop blanche à leurs yeux? Est-ce que tu as vécu ça?
C'était plus dans ma période lycée. J'ai eu ces remarques, donc le fameux terme de bounty. Noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur, blanche à l'intérieur, ça me passe au-dessus de la tête, je sais qui je suis. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement problématique, parce que dans un sens, on te dit que parce que t'es noir, donc tu dois t'assigner un certain comportement, mais quel comportement, je ne sais pas. Le fait d'écouter, par exemple, de la musique, moi j'écoute vraiment de tout, mais j'adore le rock, j'adore la techno, j'adore aller en rave, et tout ça, dans les milieux que je fréquentais, que je fréquente un peu moins maintenant, on trouvait que c'était des choses de blanc. Enfin, j'ai eu du mal, en fait, à comprendre que, c'est parce que je m'exprime bien avec un certain jargon. Ma mère, ma sœur vont me dire, non, mais de toute façon, d'où c'est une blanche? Et en fait, au départ, je croyais que c'était vraiment pour dire blanche, mais en tout cas, dans la tête de ma mère et de ma sœur, c'est à dire, au final, je suis une Française, quoi. Et ça, ça a été très compliqué pour moi à gérer. Maintenant, je rembarre ces personnes à faire une dissertation. Tu vas me dire ce que je suis censée être en tant que noire, en tant que femme noire, et qu'est-ce que c'est que d'être blanc, concrètement. Même s'il y a des situations où, quand on dit « you act like a white people », on sait très bien de quoi on parle. On parle pas de goûts musicaux, on parle pas d'un vocabulaire, on parle pas d'un esthétisme, ce genre de choses. Quoi.
On parle de quoi?
Le privilège de l'innocence de sa couleur de peau, c'est un peu... on aimerait tous l'avoir, mais...
On va rentrer dans le vif du sujet. On parle du privilège blanc, de ne pas se considérer en tant que, comment dire, une couleur de peau, en fait, de se penser universel, de se penser comme la norme, de se penser comme transcendant. C'est de ne pas prendre du recul par rapport à des situations où, en tant que blanc, on va vouloir donc imposer sa vision des choses, montrer à quel point le racisme ou les situations de discrimination n'existent pas, parce que nous, on l'a jamais vraiment vécu. Quand je dis nous, c'est donc en tant que personne blanche, et que donc que ça n'existe pas. Donc nier déjà ces problématiques-là quand t'as une personne noire en face de toi, c'est de l'appropriation culturelle. Là, s'il faudrait rentrer en détail, c'est un complexe de supériorité. c'est de vouloir se faire l'ami, justement, donc ça c'est le pendant humaniste, universel, de se faire le sauveur de personnes opprimées, oppressées, pour montrer à quel point, vous voyez, moi en tant que personne blanche, donc là bizarrement il voit les couleurs, je vous aide et je suis impliquée dans vos causes, etc., etc. Enfin, mais voilà, pour moi c'est vraiment plus politique que des goûts, une manière d'aimer certaines choses ou pas. J'ai 17 ans quand j'intègre la première année de sociaux, donc troisième année, toujours la même chose.
Puis, c'est dans la même classe?
Non, c'est que, en fait, au Congo, on rentre en CP à 5 ans. Et moi, je suis née le 6 juillet. Donc, c'est décalé, quoi. J'ai en gros 2 années d'avance. Ma licence en sociaux se passe super bien. Et bon, c'est pas très important à dire, mais je quitte mon premier amour et je rencontre dans la foulée le garçon qui partagera ma vie pendant 3 ans et demi. Et en fait, c'est à partir de cette relation aussi qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que la première année, c'est superbe. C'est même au-delà de ce que je pensais, c'est magnifique. Je me sens sur un piédestal, je me sens femme, jeune femme du moins. Et en fait, à partir de la deuxième année, je vois le vrai visage de cet homme-là. Et je pense que l'élément déclencheur, c'est qu'il avait perdu son père. Mais bon, je pense qu'il a toujours été comme ça. Donc quand je parle du vrai visage, c'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est des insultes sur la manière dont je suis habillée, c'est de la violence. Donc de la violence verbale dans un premier lieu, être rabaissée. Et là, dans l'heure d'après, d'être complètement mis sur un piédestal, en fait, là, le fait d'avoir ces montagnes russes émotionnelles, bah, ça te déstabilise. T'essaies de comprendre si ça vient de toi, parce que t'as l'impression que c'est tellement pas normal que forcément ça doit venir de toi, parce que la personne avant, elle était pas du tout comme ça. Ensuite, c'est de la violence physique, je t'étrangle, je te pousse violemment. Pendant les disputes, au début, c'est parce que la personne est alcoolisée, mais bon, tu dis, oh, on va pas exagérer, ou tu te rends compte que, bah non, même en journée, certes, on a bu quelques coups avec des potes, mais ça, la violence, elle commence à être quotidienne. Et en fait, donc à cette époque-là, j'ai pas du tout de recul, je sais pas du tout ce que c'est que le féminisme, je sais pas du tout ce que c'est que les mécanismes dits de pervers narcissiques, même si au final c'est une psychologisation de juste de la violence masculine. Je prends sur moi, les filles, je veux pas exagérer, mais c'est vrai qu'on est conditionné à toujours essayer de faire en sorte que son couple aille mieux, à faire un travail émotionnel qui est très important et que les mecs hétéros, du moins, ne font pas de mon entourage, ou très peu. Donc forcément, je commence à m'informer, je tape les comportements que je vois vis-à-vis de cette personne, et là, le mot pervers narcissique, donc le terme ressort, je me dis « ok ». Et je fais l'erreur, en fait, d'en parler avec lui et de lui dire « bah en fait, voilà, moi je pense que t'es ci, ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Ça serait bien d'aller voir... quelqu'un, en fait, de consulter, peut-être, voilà. Et en fait, cette personne-là, c'était un mec très, très intelligent, ou du moins qui se donnait cette image-là, qui disait beaucoup, qui s'informait beaucoup, qui était pas du tout la personne qu'on pourrait penser, on va dire, inculte, etc. Mais loin de là, donc forcément, il dit « Ah oui, mais c'est vrai, je vais prendre du recul, parce que... » Forcément, quand ça arrivait, ces épisodes de violence physique et verbale, juste après, c'était « mais je sais pas ce qui m'a pris, désolé, ça recommencera pas, je vais m'informer sur moi, je sais pas ce qui m'arrive, je suis foutue, je suis un connard », donc la victimisation perpétuelle pour que la victime se sente concernée par son bourreau, quoi. Alors que, enfin, quand j'en parle, je me dis « mais c'était mentalement, je sais pas comment je fais ». Pendant 2 ans et demi, je ne sais pas comment j'ai fait. Je l'ai quitté, on s'est remis ensemble. Je l'ai quitté la première fois où il m'a étranglé et que je me suis dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir et tout. Mais enfin, tu vois la haine dans le regard de cette personne et tu vois plus le visage, quoi. Mais quelques temps après, tu dis, non, c'est bon. Je vais laisser passer. On va y arriver. On a un amour passionnel. C'est pas grave. Mais c'est comme ça dans les films, finalement, quoi, dans les séries, c'est ça l'amour, c'est ça qui est beau, je me sens vibrée, tu pleures, tu cries, tu t'envoies des poèmes longs comme un bras, tu... Et tout ça aux yeux de mes amis, enfin, que j'appelais mes amis à l'époque, au-dessus de tout le monde, et c'est banalisé, et c'est banalisé parce que au bout d'un moment, bah, tu adoptes le langage de la personne toxique, quoi. Parce que c'est un mécanisme de survie, donc tu rentres dans cette violence verbale, à faire des crises devant tout le monde, parce que le mec, en fait, t'a porté une jupe et il te dit « mais de toute façon, t'es une pute, quoi ». Et il y a tous tes potes à côté en apéro. Mais de toute façon, je sais très bien pourquoi t'es là, c'est pour te faire tringler. Enfin, des trucs... Et toi, tu pètes un câble et au final, on te dit « mais non, mais douce, c'est bon, respire, quoi. Pourquoi tu craques, là ?» Mais t'as pas entendu ce qu'il m'a dit. « Mais non, il est bourré, mais non, tu le connais, machin. Mais non, il a toujours été comme ça, etc. » Et au moment, bah, tu tombes dans un mutisme et t'en parles plus. Et c'est le piège. Et là, tu te renfermes. Parce que ma famille, elle était restée en Lyon. Moi, j'étais à Tours. Donc forcément, j'étais loin, quoi. Donc là, ma licence de socio se termine. On décide, un petit groupe, d'aller à Bordeaux pour continuer, eux, en sociologie. Et moi, j'avais décidé de faire un master de sciences politiques. Les premiers mois, c'est difficile pour moi parce que j'ai pas de logement. Rebolote, j'habite avec mon ex, du coup, mon mec à l'époque, et son colocataire. Et pendant 3 mois, ma mère vient nous voir, elle le connaît un peu, etc. Mais voilà, j'ai jamais vraiment voulu le présenter, l'intégrer dans ma vie familiale, parce que je voyais très bien que ça mènerait à rien. Donc ça me rassure un peu que ma mère le connaisse, qu'elle lui parle. Je me dis, ça va peut-être changer, il va voir que bah, j'ai quelqu'un qui me soutient, que je ne suis pas sortie ex nihilo, que je suis pas juste sa victime. Mais non, ça marche pas, parce que je suis dépendante de lui, donc au niveau du logement. J'ai pas beaucoup de sous, je suis boursière, je travaille pas. Donc ça continue de plus belle. Là, c'est vraiment de la violence physique. Je suis battue, en fait, tout simplement. Et c'est très difficile d'en sortir, parce que d'un côté, je sais que je peux pas claquer la porte, parce que bah, je me retrouve à la rue, même si mes potes de l'époque auraient pu m'héberger, mais c'était pas du tout un rapport comme ça qu'on avait. On était amis, mais tant que ça allait bien. On pourra parler des personnes blanches et de solidarité, mais bon, un autre épisode. Et donc, pendant 3 mois, c'est galère, je subis, le discours est totalement double, c'est « Ah non, mais t'es chiante et tout, t'es tout le temps sur mon dos, t'as pas d'amis. » Donc, moi, je me dis « Bon, ok, bah, je me sociabilise, mais non, tu vas tout le temps voir tes potes et tout, mais tu te prends pour qui, machin, tu peux pas rentrer à telle heure, etc. etc. » Donc, c'est un truc qui te fait tourner en rond, quoi. J'ai enfin mon appart, donc ça va mieux, mais au final, il y a une emprise telle que... il critique l'endroit où j'habite, donc il veut tout le temps que ce soit qu'on se voit chez lui, donc parce que c'est quand t'es chez toi, t'as forcément un pouvoir sur l'autre, c'est toi qui décides de ce qu'on fait comme activité, on va dire, en couple, c'est toi qui cuisine, enfin il me laissait aucun terrain, quoi, c'était lui qui devait décider, il était psychorigide, il pétait des câbles parce que j'avais pas arrangé les cuillères, enfin, on en arrivait à ce stade-là, quoi. Et en fait, ce qui me décide à partir, c'est... donc on va au Nouvel An, c'était donc le Nouvel An pour l'année 2016, à l'île d'Oléron, chez des potes à lui, que je connaissais aussi. Et en fait, on dormait au sous-sol. À un moment... je sais pas, il était en haut et moi j'étais avec ses potes, on rigolait, on buvait, et il y a un pote à moi, un gros, qui sort un joint, quoi, pour fumer. Et là, il vient et il me fait, voilà, je te l'avais dit, en plus, c'est vrai, il me l'avait dit, mais c'est des comportements, en fait, qui, comme on dit, c'est des prophéties autoréalisatrices. Il me dit, j'en suis sûre, à un moment, vous allez partager un moment super intime, convivial, et je serai pas là, et je suis sûre que tu vas m'exclure de ça, machin. Et donc, forcément, il arrive, et il fait, voilà, je le savais, mais t'es une sangsue, tu me voles mes potes, etc. C'est tellement une sangsue que tu peux pas... Déjà, je t'invite, c'est mon univers, c'est mon monde et tout, tu te prends pour qui, genre. Et là, Il pète un câble, donc on va dans la chambre, j'essaie de m'expliquer, je me dis, mais tu te rends compte de là, de d'où ça part exactement, tu peux pas être jaloux de moi à ce point-là, tu peux pas, c'est pas ça, ça. Et là, il me met un coup dans la cuisse, et le lendemain, je boitais encore, et là, je sors, je dis, mais là, je peux pas parler avec toi. Donc là, je bords des larmes, je remonte, j'explique à mes potes. À un moment, je redescends parce qu'il m'appelle, ou je sais pas quoi, une menace avec mes affaires, ou d'appeler mes parents, enfin, classique. Et en fait, quand je me rapproche de lui, il me balance un verre d'alcool en plein visage, comme ça. Donc j'ai les yeux qui me brûlent, je remonte, je dis à ses potes, je me dis, est-ce que vous vous rendez compte là,
de la gravité
de la situation? Et en fait, il fait pire. C'est qu'il remonte un moment, donc il devait être 2-3 heures du mat, voilà, il est resté enfermé toute tout le nouvel an. Il remonte et il me crache au visage devant tout le monde. Et en fait, là, il y a tout le monde qui fait « Non, mais tu fais quoi ?» et tout, qui pousse, qui limite le frappe, tu vois. C'est pas dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc moi, j'explique la situation. Et en fait, à partir de là, je ne lui ai plus du tout adressé la parole. Et donc le lendemain... il me parle, il essaie. Parce qu'avant, en fait, je disais que c'était fini, et je criais, et je gueulais, et j'étais vachement dans l'émotionnel, et je pense qu'il le savait, ça. Et là, j'étais tellement silencieuse, je n'ai pas prononcé une parole à son égard. Et je pense même s'il essayait de se rattraper, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui était mort, qui était terminé, quoi. Et c'est comme ça que je me suis sortie de cette relation totalement what the fuck et toxico possible. Et après, je suis montée à Nantes. Bon, j'ai pas besoin de préciser que mon année était catastrophique à Bordeaux. Et j'ai pas du tout aimé les sciences politiques. Donc pendant un an, je suis allée vivre chez mes parents. Et bien évidemment, cette personne était à Nantes. Parce qu'il avait décidé de continuer ses études à Nantes. Et on avait un pote en commun à Nantes aussi. Donc je l'ai revu. Et ça n'avait rien changé, quoi. Et c'était toujours le même schéma à Nantes aussi, mes potes qui banalisaient la situation, qui faisaient comme si ça venait des deux côtés, quoi, si j'étais aussi fautive que lui. Et à partir de là, bah, j'ai décidé de vivre mon célibat à fond. J'ai pris le temps pour moi, d'avoir un espace pour moi, même si chez mes parents c'était très compliqué, comme je te disais, j'ai une famille croyante. Et au final, sexiste, quoi, parce que j'étais une fille et que je devais rentrer à certaines heures et que c'était pas bien de découcher. Et donc, le vendredi, sortir et revenir le samedi. Le lendemain, même si je dormais chez des amis, parce que ça, j'ai jamais vraiment compris. Parce que j'étais chez eux et qu'ils étaient responsables de moi. Donc, c'était très compliqué aussi à ce niveau-là. Et j'ai tenté tant bien que mal mentalement de m'en sortir, d'avoir des boulots à côté, parce que j'avais pris une année sabbatique, quoi, pour essayer justement de me retrouver, même si ça n'a pas trop fonctionné à ce niveau-là. Et donc l'année d'après, je rentre en information communication, donc pour 2 ans. Je continue à voir les personnes et ce mec-là aussi dans mon entourage. Et au final, je monte à Paris pour mon stage... De 6 mois. Je rencontre donc mon copain actuel avec qui ça a été une renaissance totale, parce que j'ai réappris tout simplement à m'aimer, à aimer, à avoir une relation saine, quoi. Et j'avais jamais vraiment connu ça, parce que les amours du lycée, c'est pas la vraie vie, en fait, comme on dit, c'est totalement idéalisé, enfin, je suis passée de l'idéalisation à la désillusion à quelque chose de sain, quoi, à la sanité, tout simplement. mes relations ont construit ce que je suis maintenant, et c'est pas juste pour parler de mes amours, c'est vraiment quelque chose qui fait que maintenant, bah, je suis afroféministe, parce que je me suis rendu compte que en tant que femme et en tant que femme noire, il y avait des problématiques, des angles morts en fait, que le féminisme ne pouvait pas en fait régler pour moi. Des situations dans lesquelles je m'identifiais et que des personnes, des féministes blanches, ne s'identifiaient pas. Je me suis dit, alors là, comment me positionner? Comment allier donc mon genre et ma race sociale? Et à partir de là, j'ai creusé. Et en fait, quand j'ai lu des autrices afro-américaines, je me suis dit, d'accord, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques en France, c'est pas tout à fait mon vécu, parce que moi, je me considère comme congolaise, africaine et noire. Et je ne suis pas afro-descendante à proprement parler. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même problématique, mais à ce niveau-là, j'ai pu m'identifier. Le fait d'être invisibilisée...
Enfin, c'est quoi la différence entre afro-descendante et être africaine, du coup, selon toi?
Bah, pour moi, afro-descendante, c'est être née en Occident, dans un pays occidental, et être noire, tout simplement. Se dire afrodescendante, c'est revendiquer cette africanité-là, mais qui ne nous définit pas en premier, parce que ces filles-là, elles sont françaises, quoi, avant d'être afrodescendantes. Et je trouve que ce terme est assez bien approprié, mais il a ses limites dans le sens où on va souvent dire « mais oui, mais les métis, mais les carterons, je sais pas, à chaque fois, les gens essaient de caser en disant « oui, mais si t'as que... » ou « si t'es white passing, est-ce que tu peux être considéré comme afro-descendant, etc. etc. » Mais bon, ça, je trouve que c'est des débats qu'on pourrait avoir, mais le terme en lui-même, je le trouve super intéressant, parce que moi, j'ai mes copines, justement, qui ne savaient pas comment se définir. Elles se définissaient en tant que... avec l'origine de leur pays, quoi. En disant « ah, je suis gabonaise », mais ça impliquait qu'elles étaient d'origine gabonaise. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Elles vont se dire « je suis afro-descendante ». Et j'ai trouvé ce changement super intéressant. Je me suis dit « ah là, c'est un terme qui voilà, correspond au maximum de jeunes femmes en France, jeunes femmes noires ».
Comment est-ce que tu définirais l'afroféminisme par rapport au féminisme ?
L'afroféminisme, c'est en fait la jonction entre deux identités. Une qui est immuable, c'est-à-dire être noire. Non, tu peux pas changer, malgré tous les débats sur les transraciales, enfin débat, c'est bien un grand mot, mais voilà, c'est immuable, et le fait d'être donc assigné un genre dans lequel on s'identifie, donc le fait d'être femme, qui, bah, en tant qu'assignation sociale, revêt plusieurs faits, en fait. Le fait d'être une femme blanche, c'est pas du tout le même vécu qu'être une femme noire, métisse, asiatique, etc., etc. Et donc, en fait, la jonction, ce que l'afroféminisme a de, pour ma part en tout cas, d'intéressant et de concret, c'est de mettre en lumière plusieurs situations dans lesquelles on va subir plusieurs oppressions. C'est-à-dire que ces oppressions-là ne sont pas distinctes les unes des autres. Elles s'entrecroisent, et d'où le concept de l'intersectionnalité.
T'es pas non seulement victime de racisme, et non seulement victime de sexisme, oui. T'es victime des deux à la fois.
Deux.
Et leur imbrication est différente de juste l'addition de ces deux concepts.
Exactement. Et en fait, le fait de me définir en tant qu'afroféministe me permet de mettre plein de mots sur des situations. Par exemple, le fait d'être confronté à la misogynie noire, quoi. Donc ça, c'est un terme... Avant de le connaître, j'aurais jamais pu mettre des mots sur des situations où on me traitait de singe ou de « Ah, mais attends, tu ressembles à un footballeur !» Enfin, ça, c'est des trucs, c'est particulièrement aux femmes noires qu'on va faire des comparaisons comme ça. « Ah, Gomis, tu ressembles à... » Enfin, ce genre de choses. Et aussi, donc, de l'hypersexualisation qui est, je vais pas dire systématique, mais il n'y a pas que la femme noire qui subit donc cette
fétichisation.
Voilà, merci. Mais c'est voilà, la femme noire, ça va être la femme hypersexuelle avec des prouesses donc en imaginaire collectif, hein, inqualifiable, qui est une reine dans son domaine. Tout ça, c'est un vécu. Tu peux mettre des mots sur ça. Quant à ce concept-là d'intersectionnalité. Les relations hétérosexuelles, mais plus aussi au final, hein, c'est pas que les relations hétérosexuelles, mais les relations intimes en fait. Dans cette niche-là que j'ai commencé à creuser, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant d'asymétrie dans un couple. Et je me suis rendu compte qu'avec des tumblers comme Paye ton couple, j'étais pas seule, en fait, à avoir vécu ces situations-là, quoi. J'ai laissé des témoignages, ça m'a vraiment libérée. Je me suis dit, oh, enfin, je suis même pas victime, je suis une survivante d'un mec qui était un vampire, tout simplement, émotionnel, quoi. Et ça m'a fait un bien fou. Pendant mon année de célibat, bah, j'ai embrassé aussi, toute mon identité. J'ai assumé le fait que j'étais bisexuelle. Même si à mes potes, j'avais pas forcément fait de coming out. Je m'étais jamais vraiment posé la question. Toute cette identité-là, je la connaissais pas du tout, quoi. Et à partir de là, c'était douce en entier. C'était... ma partie africaine-congolaise, ma partie française avec la musique techno. Je parle de moi aussi beaucoup en termes musicaux, parce que c'est vraiment une identité qui dit beaucoup sur moi. J'ai pu donc continuer dans ce master-là, rencontrer des personnes saines qui ont pu m'entourer, qui ont toujours été là pour moi. Et à partir de là... j'ai fait un travail mental, psychologique, de fou, quoi, dans les livres, dans les essais que je lisais. Et maintenant, je continue toujours à découvrir tout ce que ça veut dire, le patriarcat, le sexisme, le racisme, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais dans cette relation toxique, il y avait aussi une fétichisation de moi, puisque donc cet homme était blanc. J'étais prise pour une reine africaine... une Africa Queen, j'étais la noire qui lui avait permis d'avoir testé une noire, en somme, enfin, on aura l'occasion, je pense, d'en parler, mais voilà, toutes ces situations-là, ça, c'était vraiment après coup, quoi. Je me suis dit, waouh, je viens de loin, en fait, dans ma vie, j'ai vécu plusieurs étapes de ce que je combats maintenant, quoi, et c'est très fort de prendre du recul par rapport à ça. Je pourrais dire que j'ai des regrets, le regret de ne pas avoir su ça plus tôt. Mais est-ce que ça aurait façonné la personne que je suis maintenant? Je ne sais pas. Des regrets, on en a toujours. Mais pas des regrets par rapport à moi-même. Je suis plus du tout dans cette auto-flagellation, quoi. Je suis au-dessus maintenant.
Et t'as connu le racisme dans ton couple, mais t'as pas du tout parlé du racisme à l'école ou à l'université ou dans le monde professionnel. Quand est-ce que t'as réalisé que t'étais noire?
C'est une très bonne question, parce que j'essaie de remonter dans mes souvenirs. J'ai réalisé que j'étais congolaise quand je suis arrivée en France, c'est sûr. Mais quand j'étais noire, c'était plus au lycée. Parce qu'au collège, j'étais dans un groupe où c'était une sororité, en fait, même si à l'époque, je le pensais pas du tout comme ça, dans les termes actuels, quoi. J'étais dans une sororité où il y avait... essentiellement des filles donc d'origine africaine, asiatique et plus spécifiquement maghrébine, quoi. Donc moi, j'avais pas trop cette cassure-là, même si forcément c'était des afrodescendantes, donc il y avait des problématiques auxquelles elles n'étaient pas du tout liées, quoi. Le fait d'être dépaysée, exilée, de devoir s'intégrer, mais qu'au final on te renvoie toujours à ton identité, donc d'origine la première, quoi, pour moi. Mais en même temps, dans la danse, dans nos problèmes de cœur, de l'époque, le fait qu'on savait très bien qu'en tant que fille noire, dans la classe par exemple, on aurait d'amourette ou ce genre de choses, au niveau de des professeurs, on avait une relation très difficile aussi, mais c'était assez bienveillant. Je n'ai pas de souvenir d'un racisme comme ça confronté. Il y a une fois, ça c'était un prof principal qui était un remplaçant, qui avait remplacé mon prof principal, donc qui avait terminé l'année de troisième avec moi, qui m'avait proposé de faire un CAP coiffure, alors que moi j'avais mis dans mes vœux que je voulais aller en lycée général. Et en fait, ça c'était sorti de sortent nulle part. J'avais pas compris. C'était un prof de sport, donc j'étais nulle en sport, c'est pas que j'étais nulle, mais je m'en foutais de cette matière, quoi. En français, j'étais bonne élève, en anglais, en maths, je faisais le strict minimum, en SVT, pareil, enfin, tout ce qui était scientifique et tout, et je ne comprenais pas, et c'est parce qu'en fait, je traînais justement ces filles-là, elles, clairement, dans leur tête, vu qu'on ne les avait jamais vraiment poussées à avoir ce goût des études, de continuer, à un moment ou à un autre, elles savaient qu'à partir de 16 ans, c'était pas leur projet, quoi. Elles voulaient faire autre chose, se lancer dans la vie professionnelle, etc. Et donc, je pense qu'on m'avait mis dans ce bouillon-là et que, ouais, voilà, t'es noire, tu viens d'un quartier dit populaire, Orléans, donc vaut mieux ça pour toi, quoi. Et ça, j'avais dit à ma mère, ah non, maman, là, tu prends rendez-vous et tu vois ce mec parce que je sais pas s'il débloque, quoi.
Et quand t'allais voir ta mère en disant, mon prof de sport veut m'envoyer en CAP coiffure, est-ce que... Là, elle avait perçu que c'était un peu raciste.
Oui.
Et qu'est-ce que tes parents t'ont répondu ?
Ma mère m'a tout de suite dit... Elle m'a posé la question, elle m'a dit... Tu sais pourquoi ? Je lui ai dit, oui, maman. Elle m'a dit, ça, c'est la première fois que ça t'arrive, ça sera pas la dernière. Et je lui ai dit, mais... Enfin, pourquoi tu dis ça ? Elle m'a dit, tu sais, parce que... On est noirs. On est noirs. On est dans une tranche de la population... qui est minorisée, en fait. Je le dis avec ces mots-là, mais elle me dit, on est noir et on fait partie d'une classe populaire. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit, parce que tu vois, ils pensent que parce que t'es noire, t'es pas intelligente. Parce que t'es noire, malgré tes résultats, même si mes résultats, ils avaient flanché, mais j'étais dans une bonne moyenne, quoi. J'avais pas une 16 de moyenne, mais voilà. Elle me dit, même malgré ça, ils te diront toujours que c'est pas assez... ou que t'es ceci, donc pas intelligente, pas assez performante, pas assez blanche, quoi. Et là, je me suis dit, bon, mais on va y aller quand même. Oui, bien sûr qu'on va y aller, t'es ma fille, hein, je vais pas te laisser. Je sais que c'est pas ça, si t'avais envie de faire ça, il y aurait pas de problème, mais c'est pas du tout ce dans quoi tu veux t'embarquer, donc on va y aller. Ma mère, elle est notaire au Congo, et en fait, ma mère est très humble, donc elle arrivait, en gros, d'extérieur, une femme qui paye pas de mine, quoi. Et j'ai beaucoup aimé donc la discussion. Donc elle arrivait devant le professeur, il lui a fait tout son baratin, machin, pendant 5-10 minutes. Et en fait, ma mère, elle lui a répondu, je comprends ce que vous dites, dans le sens où je pense que vous avez mal jugé ma fille, pas que je remets en cause ou en doute vos capacités de professeur et de pédagogue, mais je vais vous expliquer que en fait, la volonté d'un enfant, elle prime, surtout pour son avenir, elle prime sur vos... comment elle avait dit ça ? Sur votre perception en fait, de ce qu'elle est ou de ce qu'elle n'est pas. J'adore observer les gens, donc il était un peu décontenancé en mode analyse, qu'est-ce qu'elle fait, elle n'est pas venue supplier, parce qu'elle savait très bien que c'était ça et pas autre chose. Donc il a été tout de suite décontenancé, il a dit d'accord madame, écoutez, on peut se mettre dans mon bureau, parce qu'il avait reçu dans les couloirs comme ça, et là il a proposé qu'ils aillent dans le bureau, et là j'ai pas pu rentrer du coup. Et ça je me suis dit, oh, ma mère c'est quelque chose quand même, waouh. Par contre, à partir du lycée, j'ai eu, à partir de la première, j'ai eu ma prof de français qui était géniale, mais je n'oublierai jamais cette femme, qui elle était donc née au Mali, donc c'était en fait mon premier modèle féminin, tout simplement, un rôle modèle, comme on dit. Je me suis vachement identifiée à cette dame, pour son amour des lettres, pour la manière dont elle avait su construire sa vie, elle se livrait beaucoup à nous. On avait une relation prof-élève, mais pas que. Et en fait, elle nous expliquait en fait les situations dans lesquelles elle avait pu rencontrer du racisme, quoi. Et moi, ça m'avait interpellée, même si ça me paraissait tellement abstrait. Et j'ai pensé à elle quand, en terminale, les élèves, parce que j'étais dans un lycée au final où il y avait beaucoup de... C'était un lycée général et technique, mais il y avait beaucoup de blancs. On était en minorité, alors encore plus en classe littéraire. À partir de là, j'ai rencontré plein de situations, mais pas forcément de prof à élève. C'était plutôt entre les élèves. Il y avait déjà ce côté très fermé... les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, mais pas de manière naturelle. C'était vraiment, on se regardait un peu, quoi, de travers. C'était dans ma classe, j'étais là, on était trois filles noires, et je crois qu'il y avait une fille donc, d'origine marocaine, et il y avait un élève qui était, on va le dire, un raciste, quoi. Raciste, même si à l'époque, c'était banalisé, qu'il faisait des blagues, en y repensant, mais c'était n'importe quoi, mais vraiment. Il faisait des blagues en cours d'histoire sur, quand on évoquait la colonisation, le nazisme, en disant que de toute façon, c'était tant mieux pour ces peuples-là, la colonisation, puisqu'on n'en serait pas là, quoi. Enfin, des trucs où ma pote et moi, donc on répondait par des blagues, tu vois, aussi, mais des blagues pour essayer de dire, mon gros, mais tais-toi, quoi, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais on avait été habitués à ce genre de choses. Et ça nous a suivi donc de la première à la terminale. Il y avait quelques personnes aussi dans la classe qui rentraient dans son délire. Et en fait, là, donc en première, j'ai 15 ans, hein, ouais. Et en fait, pour moi, c'était tellement abstrait le racisme. C'était comme on en parle maintenant, quoi. C'était les méchants, les vilains, des personnes toxiques, débiles, machin. Et en fait, non, parce que je me suis rendu compte que ce mec-là, son père travaillait à la préfecture. Et qu'il avait raté son bac, et que désormais, il y avait un poste en préfecture. Et en fait, là, je me suis posée, je me suis dit, mais c'est des personnes comme ça qui sont dans les institutions françaises. C'est des personnes qu'on côtoie et dont on banalise les propos, qui se retrouvent à décider de la vie de personnes, en fait, tout simplement. Dans une ville qui est déjà, ma foi, bien raciste, bien catho. Et à partir de là, je me suis dit, ok, bon. Et j'ai mis de côté. Mais quand je suis arrivée en socio, voilà, c'était la claque.
On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune décence, tout est calvaire. On m'a menti tout du long. La société est une salope, capital en enfoiré. Il faut brûler les policiers. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. Ce que je vois, c'est un grand feu. Je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accusez, je vais moi-même vous juger.
J'ai pu mettre, en fait, bout à bout, toutes les petites expériences. Et là, je me suis rendu compte que j'étais noire. Parce que je me suis rendu compte que les expériences dont je pensais être juste... victime, entre guillemets, de ma propre vie... ça, c'était un truc qui me dépassait plus, quoi. Le fait d'avoir appris les déterminismes, de savoir que une société, en fait, c'est pas juste des individus, quoi. C'est des individus qui forment un tout, et que ce tout-là détermine les individus. C'était une révélation. De me rendre compte que, au collège, je mettais plus mes cheveux au naturel. Alors qu'avant, quand je suis arrivée du Congo, j'étais beau mes cheveux, je les avais jamais défrisés. Mais à partir d'un certain moment, je suis rentrée dans les cases autant de mes potes afrodescendantes que de ce que je voyais en face, c'est-à-dire être belle, c'est-à-dire les cheveux lisses, la peau claire. Limite, j'ai jamais une lentille, mais j'avais des potes qui mettaient des lentilles pour correspondre à ce côté. Ah, t'as les yeux clairs, donc tu dois avoir du métissage, donc t'es pas tout à fait noire, donc t'es dateable, quoi. Et tout ça, ça m'est revenu en plein dans la gueule. Je me suis dit, waouh! Ok, je viens de là. Donc à partir de là, à partir de la socio, quoi. À partir de... J'avais 17 ans.
T'as commencé à déconstruire.
Exactement. J'ai commencé à déconstruire, premièrement, ce qu'on appelle donc, le classisme, quoi. Me dire que je faisais partie d'une tranche de population qui n'était pas forcément la plus... ironiquement, la plus mise en avant. Je rencontrerais des problèmes au niveau de ma profession. Et là, c'était vraiment... au niveau des classes, quoi, parce que la socio, c'est ça, en socio, on parle jamais de race sociale, alors que sociologiquement, ça devrait être un cours, quoi, mais bon, on n'est pas aux États-Unis. on parlait d'ethnicité, et encore, c'était dans mes cours d'anthropo, d'ethnologie, etc. Donc, approche problématique pour moi, mais on pourra y revenir. Et ensuite, comme je te disais, donc après avoir vécu cette relation-là, là, je suis passée à un autre niveau. Je suis passée au niveau, je déconstruis en fait tout le sexisme que j'avais pu intérioriser. Et après, quand j'étais célibataire, là, ça a été la rencontre. J'ai lu plein d'auteurs, d'autrices principalement, afro-américaines. J'étais sur Twitter aussi à l'époque, de manière un peu frivole, et ensuite plus sérieusement. J'ai rencontré aussi des filles, notamment, qui sont toujours mes amies actuellement. Des filles noires, donc qui étaient soit nées en Afrique, au Gabon principalement, soit qui étaient nées en France, mais qui avaient elles aussi commencé à déconstruire toutes ces problématiques-là, quoi. Et ça a été salvateur, parce que j'ai recréé une sororité, mais qui était vraiment basée sur un vécu similaire, et avec une vision, quoi, c'est-à-dire qu'on se tirait vers le haut, alors qu'avant c'était un truc, vas-y, prouve que t'es une meuf en allant te battre, quoi. C'était en fait, on reproduisait les schémas masculin, quoi, pour prouver qu'on était des jeunes femmes. Et donc à partir de là, avec ces filles-là, ça a été une bouffée, quoi, tout simplement une bouffée d'air frais. Et on a pu échanger justement sur nos vécus, sur le racisme passé, présent, remettre en cause les institutions, que ce soit dans le logement, que ce soit dans nos relations, que ce soit professionnellement, en fait, toutes ces situations. Et je me suis dit, ah oui, je ne suis pas seule.
Et ça, c'est des choses dont tu ne parlais pas avec ta famille, avec ta grande sœur notamment?
Pas du tout. Parce que j'étais... Donc moi, je suis partie très tôt, je suis partie à l'âge de 16 ans pour mes études. Ma sœur, elle est restée à Orléans, ensuite elle est allée en Allemagne. Donc avec ma sœur, on s'entend bien quand on est éloigné. Mais vraiment, c'est quelque chose. Depuis que je suis à Paris, elle va prendre plus de nouvelles de moi. Alors que quand j'étais par exemple à Nantes, là, pendant mon année sabbatique, ensuite pour mes études, c'est très conflictuel. Parce qu'elle voulait que je m'aligne sur ses convictions. Et moi, ça passait pas. Par exemple, sur le sexisme, ma sœur, on l'a toujours qualifiée, je déteste cette expression, de garçon manqué, parce qu'elle a un tempérament de feu, quoi. Elle va dire les choses, elle va pas se laisser faire. Elle fait du droit, donc quelqu'un qui, voilà, qui a une pensée raisonnée et raisonnable, quoi. Et en même temps, parce que la religion, elle va te sortir... non, mais les femmes, pour moi, une femme présidente, c'est impensable, parce que les hommes, c'est les hommes qui doivent porter à bras le corps, en fait, toutes les positions de pouvoir. Et en fait, quand j'étais à Nantes et qu'elle me parlait de ce genre de choses, je lui disais, mais tu sais que là, si on était resté dans ce raisonnement-là, tu pourrais pas être avocate. Tu pourrais pas travailler.
Tu pourrais même pas faire d'études.
Non, non, non. Elle disait, oui, mais c'est pas la même chose. Ici en France, les femmes qui veulent être chefs d'entreprise, c'est pas du tout ce que ça devrait être et tout. Tu te rends compte qu'au final, elles sont pires que les hommes. Enfin, tout ce mythe là sur les femmes super arrogantes, bossy, trop patronnes, quoi. Elle me sortait tous les argumentaires. Que la femme doit être soumise, donc ça c'est tiré de la Bible, hein, soumise à son mari, et que son mari doit l'honorer. Tous ces discours-là, je me disais, ah oui, non, il y a une. Elle sait que je suis féministe, mais je pense qu'elle sait pas du tout ce que c'est. We gave you life, we gave you birth, we gave you God, we gave you earth, we filmed the future, don't make it worse. You want the world, well, what's it worth? Emoticons, Decepticons, and Autobots. Who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris in the darkest hour, spoke truth to power, made a fandroid out of your girlfriend. Let's get caught downtown in the whirlwind, and paint the city pink, paint the city pink, and tuck the pearls in, just in case the world in. Huh. And nigga down dog, nigga move back, take a seat, you are not involved, and hit the mute button, let the vagina have a monologue. Et donc aujourd'hui, t'es une journaliste afro-féministe. C'est bien ça. Il m'avait toujours semblé logique. Depuis le collège, je voulais être journaliste. Et c'est pour ça que donc, j'ai fait des études en rapport avec la société, puisque j'ai toujours été intéressée par les visions, une vision macro, quoi. Une vision macro de nos existences. Et en fait, la sociologie, ça me semblait l'évidence même. Parce que donc, je m'étais beaucoup renseignée par rapport à... Bon, les débouchés, je savais que ça menait à pas grand-chose, mais avoir ce savoir-là, acquérir toutes ces connaissances, tous ces auteurs et toutes ces autrices qui ont fait des études sur le comportement humain, sur les mécanismes des sociétés, je trouvais ça mais d'une puissance, en fait. Ensuite, le master de sciences politiques, bon, c'était pas tout à fait la même chose. Et je suis assez fière de moi par rapport à ça, d'avoir pu, malgré tout, gratter, chercher et trouver une cohérence dans tout ça. Et ouais, journaliste, c'était une évidence.
Et est-ce que c'était quelque chose qui était difficile à faire accepter à ta famille, comme choix de carrière, où il n'y a pas beaucoup de débouchés ?
En soi, non. Parce que déjà, ma mère, ce qu'elle voulait, c'était qu'on ait notre bac. Et qu'on fasse nos études supérieures pour être sûr d'avoir au moins un boulot, même si, bon, au final, ça veut plus rien dire d'avoir 10 000 diplômes, quoi. C'était aussi en rébellion par rapport à ma famille, parce que ma mère est notaire, ma sœur va être avocate bientôt. Je dis, le droit, c'est pas pour moi. Et c'était elle. En fait, je voyais un peu ce qu'elle faisait, je parcourais un peu le code civil, etc., le code familial, et comment elle devait, en fait... rendre ce savoir-là, c'était tellement cadré, mécanique. Je dis, oh non, moi, j'ai pas un esprit comme ça du tout. Moi, j'étais rêveuse. Je tissais plein de toiles. Enfin, voilà, je voyais des combinaisons, des liens partout dans plein de problématiques et tout. Je me suis dit, non, moi, je veux un truc où mon esprit va se régaler avec des problématiques, des dissertations, des machins, de l'écriture. Donc, ouais, de fil en aiguille, hop, ça s'est creusé et j'ai eu un point précis par rapport à ça. Et mes parents, non, ils n'ont jamais vraiment douté de moi, quoi.
Et dans ta carrière aujourd'hui, est-ce que tes croyances, tes convictions ont déjà posé problème, ou même ton apparence, ta race sociale ?
Alors, j'ai fait des boulots étudiants, et ça n'a jamais vraiment posé problème. En tout cas, j'ai pas eu frontalement, voilà, ce genre de choses. Dans ma carrière en tant que journaliste, je me suis rendu compte que, par exemple, quand je faisais mes lettres de motivation, je mettais vraiment les sujets qui m'intéressaient. Donc, justement, parler de racisme, de sexisme, d'homophobie, lesbophobie, enfin, transphobie. Et je pense que ça a posé problème. Bien sûr, sur mon CV, il y avait ma photo. Je n'ai jamais vraiment eu de réponse franche en disant « Oui, votre profil est trop radical, etc. » Mais si j'avais lissé toutes mes convictions comme ça, si j'avais fait patte blanche... Je pense que j'aurais eu des appels, au moins des entretiens. J'ai jamais passé d'entretien en tant que journaliste. J'ai eu l'occasion donc de piger pour des médias, par-ci par-là. Après, voilà, j'ai fini mes études il y a un an, donc à 24 ans. Donc voilà, je sais que ma vie n'est pas terminée, ma carrière n'est pas terminée. Mais c'est vrai que si j'avais lissé mes convictions, c'est sûr et certain que j'aurais eu plus d'entretiens. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de me lisser, j'ai envie que ma voix soit entendue en tant que journaliste. Je sais que ces questions-là, elles sont pas assez abordées, ou quand elles le sont, c'est par des personnes qui ne sont pas forcément légitimes et qui commencent de plus en plus à gratter sur ces questions parce que ça intéresse de plus en plus de personnes, qui voient leur fil d'actualité Twitter se modeler, se changer, donc pour ramener de l'audimat, du lectorat, etc., qui commence à creuser. Et au final, tu lis des articles qui n'ont ni queue ni tête sur la transracialité, là justement, on en parlait. Enfin, et tu dis, mais c'est des chercheurs en plus parfois, quoi. Donc on se rend compte que tu peux avoir un haut degré de scientificité, mais si ces questions-là, tu ne les vis pas, ou du moins tu ne les abordes pas d'une certaine manière, c'est-à-dire en prenant du recul sur toi en tant que personne privilégiée, ça marche pas. Et moi, c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est ça que j'ai envie d'écrire, quoi. Mais c'est pour ça que mes convictions, je les laisse aussi rugueuses que possible.
Et à ton avis, pourquoi ça devient à la mode, ce genre de questions ? De discrimination, d'oppression, de racisme systémique.
Dans le monde de la recherche, ça a toujours été à la mode, entre guillemets. Il y a beaucoup de... Notamment avec Éric Fassin, j'ai creusé, quand je vois sa bibliographie, ça. Il y a beaucoup de choses qui ont toujours été faites depuis les années 80, même un peu avant. Et le fait que ça se démocratise, c'est justement parce que les gens... Il y a eu une vulgarisation de ces concepts-là. Et que grâce à ces concepts scientifiques, bah, les gens se sont tout simplement reconnus dans les situations et en parlent, quoi. Et les gens en parlent, dénoncent de manière très simple. Parfois, je suis subjuguée, je suis des comptes Twitter où la nana, 4-5 off thread, quoi, elle dit tout. Elle dit tout sur la discrimination, sur le sexisme, sur le racisme. Et je trouve ça génial. Et que ces comptes Twitter-là soient même screenshotés dans des articles de presse. Et par contre, ce que je trouve dommage, c'est que justement, à travers cette démocratisation-là, il y a le retour de bâton dans les sphères du pouvoir, comme bah, dans les grands médias, où on va vouloir amoindrir ces choses-là en criant au racisme, à la fin de l'homme viril, etc. Enfin, toutes les problématiques qui sont remises en cause et qui bousculent justement le patriarcat, quoi. Ouais, non, je pense tout simplement que les voix se sont élevées parce qu'elles avaient les bons mots.
Ouais, ou qu'elles sont mieux entendues maintenant qu'elles ont les bons mots, ouais. Et pourquoi est-ce que tu veux faire ce podcast ?
À travers ce podcast, en fait, j'avais tout simplement envie de... Bon, pour une sociologue, c'est un peu bizarre, mais ça, c'est mon côté journaliste qui parle, de ramener aussi au subjectif les oppressions qu'on vit et qu'on dénonce de manière holistique, c'est-à-dire macro, quoi, dans une vision sociétale. J'avais envie de ramener ça aux individus. Durkheim qui serait pas fier de moi. J'avais vraiment envie de que les gens se rendent compte que derrière ces concepts-là, derrière ces grands mots, ce jargon, bah, il y a des vécus, il y a des existences qui sont bouleversées, il y a des existences qui s'éveillent, qui se réveillent, qui rayonnent, qui se battent, qui sont combattantes, qui se recherchent tout simplement. Et j'avais envie de parler d'ego à ego.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Merci Anthony de participer à ce podcast et j'ai hâte d'entendre ton récit à toi.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer. Pensez à nous mettre une bonne note de préférence et à nous laisser un commentaire.
Merci.
La musique du générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.